un commentateur biblique avait fait la remarque suivante. Il avait dit que l'épître aux Galates était une épître qui devait avoir un écho particulier au niveau du peuple français. Alors pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, selon les spécialistes de l'histoire, il paraîtrait que la région de la Galatie, et notamment la Galatie du Nord, donc dans l'actuelle Turquie, tire son nom de la Gaule. Gaule, Galatie, vous voyez un peu. Et il semblerait que le peuple galate serait donc la conséquence d'une grande vague de migration qui aurait lieu au 3e siècle avant Jésus-Christ, une vague de migration celtique. Vous savez, les Celtes, c'est ce peuple qui vivait dans la Gaule. Donc l'ancienne France. Et donc les Galates auxquels s'adresse Paul donc, auraient donc des racines gauloises. Donc ça devrait toucher, paraît-il, plus particulièrement les Français. Alors on dit aussi que les Galates avaient une tendance à agir comme des moutons de Panurge, c'est-à-dire être quelque peu crédules, facilement influençables, et ne pas avoir de scrupules à retourner leur veste. Alors de là à dire que les Français d'aujourd'hui ont la même mentalité, c'est un pas que je ne me permettrai pas de franchir. Donc refermons cette parenthèse. En tout cas, le but de la lettre aux Galates, c'est de dénoncer un certain nombre d'hérésies. Que reprochait Paul quand il a écrit cette lettre? Que reprochait-il aux Galates? Il reprochait d'abord, enfin, il reprochait deux choses d'une manière générale. Il reprochait d'abord la versatilité des Galates. Il avait dit d'ailleurs, dans Galates 1:6, il a dit « Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Donc, ils avaient effectivement accepté un enseignement qu'on appelle hérétique, selon lequel il fallait obéir à un certain nombre de rites, des traditions juives pour être sauvés, notamment, enfin pour compléter du moins leur salut, notamment par l'observance stricte du sabbat et aussi la pratique de la circoncision. Et donc Paul va réagir face à cet enseignement contraire à la justification par la foi. Hein, Paul était très intransigeant sur cette justification par la foi, qui est une grande vérité de l'évangile, hein, le salut par la foi et non pas par les œuvres. Hein. Et Paul d'ailleurs ne manquera pas de développer cette vérité plusieurs fois, notamment dans l'Épître aux Romains, qu'on verra aussi lors de nos études bibliques, qu'on a commencé d'ailleurs à l'étudier. Et le deuxième reproche, c'est de faire de l'Évangile, et plus particulièrement de la liberté que donne l'Évangile, un prétexte pour se laisser aller à faire n'importe quoi. Donc pour certains, donc, la liberté de l'Évangile, c'était un peu la liberté de péché. Vous voyez un peu le glissement. Et Paul, donc, fait ce reproche. Mais il reproche aussi aux Galates de mettre en doute et même de rejeter son autorité, l'autorité de Paul, l'autorité qu'on appelle apostolique de Paul. Paul était accusé d'être un apôtre de seconde zone, d'avoir simplement copié, d'avoir arrangé à sa sauce l'enseignement des apôtres de Jérusalem. Donc les gens, enfin les Galates, pensaient que, avec l'enseignement qu'ils avaient reçu de faux enseignants, pensaient que Paul ne connaissait pas grand-chose au véritable sens de la loi de Moïse. Et que s'il connaissait bien la loi de Moïse, il aurait compris que la loi devait être mise en avant. Et donc pour les Galates, Paul est un imposteur. Or, l'autorité d'apôtre de Paul est un enjeu crucial pour l'église de Galate. Pour que l'église de Galatie, puisse être fondée sur des bases solides. Et donc là, il y a clairement une situation d'urgence à laquelle Paul va s'empresser de réagir et il va écrire cette épître aux Galates. Quelle va être sa démarche face à cette situation alarmante? Eh bien, dans l'épître de Galates, il y aura tout un exposé, un développement de Paul en trois étapes. La première étape, il va d'abord défendre son ministère, dans les chapitres 1 à 3, et 2, parce que son ministère, son appel, était contesté par les Galates. Donc qui va défendre ça. On va voir comment il va le faire. Et la deuxième étape, dans les chapitres 3 et 4, c'est d'évoquer l'Écriture, la loi. Cette loi qui était à l'origine de l'égarement de l'église de Galates, eh bien, il va s'appuyer dessus pour démontrer la vraie doctrine du salut, la justification par la foi et non pas par les œuvres. Et la troisième démarche, c'est, dans les chapitres 5, c'est d'expliquer la véritable signification de la liberté chrétienne. Et aujourd'hui, je vous propose de voir la première étape de cette démarche, de ce livre de Galates. Et je pense que les autres étapes seront traitées par ceux qui seront là, qui vont prêcher sur ce livre-là la prochaine fois. Et notamment, je vous informe déjà que la prochaine prédication sur Galates aura lieu le 25 février. Alors, nous allons d'abord lire Galates, donc chapitre 1, versets 11 à 24. Galates 1, 11, 24. Je veux que vous le sachiez, frères. Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu, dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération, et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son fils pour que je l'annonce au nom juif, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie, et de là, je suis retourné à Damas. Damas en Syrie. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie. Mais les chrétiens des églises de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. » Et il louait Dieu à mon sujet. Voilà, nous allons arrêter là notre lecture de ce matin. Alors, pour convaincre les Galates de l'authenticité donc de sa vocation, de son autorité d'apôtre, puisque c'est ça le thème dont il est question ce matin, la défense du ministère de Paul, et bien il va développer 3 arguments. Le premier argument, c'est l'affirmation de l'origine divine de l'Évangile, dans les versets 11 à 12, l'affirmation divine de l'Évangile prêché par Paul. Alors, dans le contexte galate, donc, des personnes qui étaient venues de l'extérieur ont semé le doute dans l'Église concernant l'Évangile qu'elle avait reçu de la part de Paul. Et Paul utilise même un terme assez inhabituel. Il dit « Vous avez été carrément envoûté, ensorcelé par cet enseignement », au chapitre 3, verset 1. Et suite à ces faux enseignements qu'ils avaient reçus, l'Église est devenue un peu méfiante, réticente sur l'origine de l'enseignement de Paul. Et que va faire Paul? Eh bien, il va citer les sources de son enseignement. En versets 11 et 12, on a lu tout à l'heure, « Je veux que vous le sachiez, frère, le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, je l'ai reçu d'aucun homme, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a fait connaître par une révélation. » Quand on était à Madagascar, donc avant, je travaillais dans une école de commerce. Et il m'arrivait de faire partie d'un comité de lecture pour éplucher les dissertations ou les mémoires, avant de donner l'aval aux étudiants pour qu'ils soutiennent publiquement leur mémoire. Et une des consignes des étudiants, c'était de nommer toutes les sources de leurs réflexions, les citations, etc., sous peine d'être accusé de plagiat. Peut-être que vous avez entendu déjà parler de ce terme plagiat. Parce que le plagiat est passible de sanctions. Et bien sûr, quand on était à peu près sûr que telle ou telle réflexion venait directement de l'étudiant, eh bien, ça donnait du crédit au document. Hein. C'était un avantage pour l'étudiant, il marquait des points. Et ici, Paul, il cite ses sources. Mais en fait, ses sources, c'est une seule source. Son unique source, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc Paul affirme que l'évangile qu'il prêche n'est pas le produit d'une culture, ne vient pas d'une tradition religieuse, ne vient pas d'un écrit qu'il aurait vu quelque part à droite à gauche, mais ne vient pas non plus des apôtres, qui étaient déjà présents à l'époque, hein, les apôtres de Jérusalem, mais directement de son Seigneur. Donc son enseignement est un enseignement normatif, un enseignement qui fait autorité, et il n'y a rien à enlever. Parce que les Galates voulait justement mettre de côté son enseignement pour entrer dans d'autres enseignements qui mettaient en avant la loi plutôt que la foi. Vous savez, il existe aujourd'hui des communautés qui se disent chrétiennes hein, et qui mettent de côté, qui ne considèrent pas certains passages de la Bible parce que ça ne les arrange pas. Il y a certaines communautés qui seraient notamment ce qu'on appelle de juifs messianiques, donc les juifs qui croient au Messie. Mais il y a une frange de cette communauté qui récuse l'autorité de Paul. Je connais des personnes qui ont fréquenté cette communauté. Donc ils récusent l'autorité de Paul un peu comme ces hérétiques qui troublaient les Galates. Ils ne supportent pas l'idée que Paul mette en avant la foi plutôt que la loi. Et du coup, ils rejettent tous les écrits de Paul. J'ai parlé avec une personne, personnellement, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait fréquenté ça et qui était complètement persuadé que les épîtres, tous écrits par Paul, n'avaient aucune valeur, ainsi que les épîtres qui n'ont pas été écrits par les apôtres. Bon, c'est carrément une secte. Mais ce n'est pas la peine d'aller dans des sectes hein, pour trouver des enseignements hérétiques. Dans des églises de souche protestante, et j'ose le dire ce matin, voire protestantes évangéliques, eh bien certaines théologies font froid dans le dos. On peut y entendre que le Christ n'est pas ressuscité corporellement, ou bien qu'il faut obligatoirement manifester certains dons pour être considéré comme un vrai chrétien, ou encore que la Bible n'est pas entièrement inspirée de Dieu. On entend ça. Ou alors qu'un chrétien a vocation à être obligatoirement riche et en bonne santé, sinon il y a quelque chose qui cloche dans sa foi. Ce sont des choses qu'on peut entendre dans des églises aujourd'hui. Et la liste est encore longue. Mais ce sont aussi autant de clignotants rouges qui doivent nous alerter. Parce que là, clairement, la vérité de l'évangile est menacée. Et dans le contexte galate, des théories hérétiques donc commençaient effectivement à menacer dangereusement le christianisme. Alors on ne sait pas avec certitude l'identité de ceux qui apportaient ces faux enseignements, parce que Paul n'en parle pas explicitement. Mais le fait est que quand Paul souligne justement que l'évangile qu'il a reçu a été directement du Seigneur, c'est une manière de dire que Paul est dans le vrai, il est dans le véritable, son enseignement n'est pas du pipeau, c'est pas du fake, comme diraient les jeunes. Et en rejetant l'évangile prêché par Paul, en fait, c'est Dieu que les Galates rejettent. On dit souvent que la France est le pays du vin. Est-ce que c'est vrai ? Non, non, non. Mais il paraît que pour être sûr d'une bonne qualité de vin, il faut que ce soit un vin AOC, appellation d'origine contrôlée, pour s'assurer que ce vin provienne d'une région réputée. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas en train d'assimiler l'évangile à du vin, rassurez-vous, mais d'une manière imagée. On pourrait dire que Paul garantit que l'évangile qu'il prêche est un évangile AOC, par excellence, pour la bonne raison que c'est le Seigneur lui-même qui lui a transmis. Donc par la bouche de Paul, cher ami, la Bible nous assure de la source divine de l'évangile, et c'est une source qui garantit son authenticité, qui garantit son caractère véritable, son caractère digne de foi. L'évangile n'est pas né de la pure imagination humaine, même s'il y en a qui affirment que le christianisme est un mythe. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quel est l'évangile que nous croyons ? Que le Seigneur nous accorde la sagesse pour discerner la bonne doctrine qui est divinement inspirée et que nous puissions discerner quels sont les faux enseignements, c'est important dans une église. Alors, le deuxième argument de Paul, c'est de mettre en avant le caractère extraordinaire de sa conversion. Chapitre 1, versets 13 à 16. Il met en exergue le fait que sa conversion est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez, l'apôtre Paul était extrêmement instruit sur le plan religieux. Ce n'était pas n'importe qui sur le plan intellectuel. C'était un pharisien, donc un ardent défenseur de la loi, qui connaissait très bien la loi. Il était très zélé, il pensait sincèrement servir Dieu de tout son cœur. Il était profondément convaincu que le judaïsme, c'était la seule voie qui plaisait à Dieu. Et il voyait, donc d'un mauvais œil, ce christianisme. Et la Bible a dit qu'il avait approuvé la lapidation d'Étienne. Étienne, le premier martyr chrétien, qui fait partie des personnes qui avaient prêché. Et à cause de son zèle religieux, la parole nous dit aussi qu'il respirait le meurtre, c'est un terme très fort, contre les chrétiens. Mais ça, c'était avant. Car un jour, il n'a pas pu résister à l'appel que Dieu lui a adressé. Vous connaissez peut-être l'histoire, sur le chemin de Damas, il est tombé, il a été, on va dire, vaincu vraiment par le Seigneur Jésus. Jésus qui s'est présenté en disant « Je suis ce Jésus que tu persécutes ». Alors, quelle est l'intention de Paul ? Il rappelle son ancienne vie, il rappelle ses anciennes convictions, il rappelle le fait qu'il était persécuteur. Et là, il veut mettre en évidence la puissance transformatrice de l'Évangile, qui a fait du persécuteur de chrétiens qu'il était un fervent défenseur du christianisme. Comment est-ce possible ? Par l'Évangile. Ça montre que l'Évangile n'est pas simplement une doctrine, mais une puissance. Et Paul l'a dit aussi dans Romains chapitre 1, verset 16, il a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour celui qui croit. Une puissance qui change, une puissance qui bouleverse à tel point que le cœur le plus endurci ne peut pas y résister. » Et pour Paul, le bouleversement extraordinaire de sa vie n'a qu'une seule explication. C'est le signe que Dieu l'avait depuis toujours destiné à exercer un ministère particulier. Et c'est ce qu'il dit au verset 15. « Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » En fait, l'apôtre qu'il est devenu, c'est le fruit de l'œuvre souveraine de Dieu dans sa vie. Ce que Paul est, il le doit à la seule grâce de Dieu. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous ? D'abord, le fait qu'on peut être sincère dans nos convictions tout en restant ennemi de Dieu. Comme l'était Paul avant sa conversion, alors qu'il était ferme dans ses convictions et il était sincère, il pensait servir Dieu. Autrement dit, le fait de bien connaître les religions, de bien connaître la Bible, de vouloir bien faire les choses, de faire des œuvres de bienfaisance, etc., c'est bien. Mais c'est insuffisant pour être sauvé. Le salut passe d'abord par l'acceptation du message de l'Évangile, en mettant sa confiance en Jésus-Christ. Toute la science et le savoir de Paul ne lui servaient finalement à rien en regard du salut. Par ailleurs, Dieu nous connaît aussi intimement, même avant notre naissance. Il connaît même à l'avance le nombre de jours que nous allons vivre. Rendez-vous compte. Dieu sait exactement à quelle heure, quel jour, moi, mamie, je vais partir de ce monde. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Psaume 139, 16. Et aujourd'hui, pour nous qui sommes peut-être encore hésitants, il nous appelle à nous approcher de lui pour qu'il accomplisse le projet qu'il avait déjà conçu depuis toujours dans nos vies. Et si nous entendons son appel ce matin, n'endurcissons pas notre cœur, ou n'endurcissons plus notre cœur. Mais laissons Dieu nous transformer par la puissance de l'Évangile, tout comme il l'a fait pour Paul. Parce que le véritable Évangile, ce n'est pas un Évangile statique, c'est un Évangile en action. Un évangile qui transforme radicalement des vies. Et Paul en est le témoignage type. Et si nous appartenons déjà à Jésus-Christ, n'hésitons pas, quand Dieu nous en donne l'occasion, aussi de témoigner des circonstances de notre conversion, ce que nous étions avant, de connaître le Seigneur Jésus. Même s'il n'y a pas eu de quelque chose d'extraordinaire comme Paul, mais ne serait-ce le fait d'avoir l'assurance d'être passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Donc Paul, dans un deuxième temps, donc, a souligné le caractère extraordinaire de sa conversion pour montrer que cet évangile qu'il a prêché, ce n'est pas simplement des paroles, ce n'est pas simplement quelque chose qui a été dit comme ça, mais c'est quelque chose qui agit. Quand je dis quelque chose, je ne devrais pas dire, c'est vraiment une puissance. Et le troisième argument, là, Paul va enfoncer un peu plus le clou, il va retracer un peu sa biographie. Il va, quelque part, retracer son CV. Pour bien confirmer cette vocation apostolique, il relate son histoire personnelle, il fait ce qu'on appelle une autobiographie, à partir du moment donc, où il s'était converti. Et il prend soigneusement le temps de le faire. Ça commence en Galates 1, verset 17, et ça va même jusqu'au verset 10 du chapitre 2, on ne l'a pas lu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après sa conversion, Paul aurait pu d'abord partir à Jérusalem afin de rencontrer les apôtres, pour éventuellement en savoir un peu plus sur l'Évangile. Mais au lieu de cela, il part au sud, dans l'Arabie. On ne sait pas exactement ce qu'il est allé faire là-bas, mais certains commentateurs bibliques pensent que c'est pendant ce séjour en Arabie, justement, qu'il aurait reçu personnellement l'Évangile, directement par le Seigneur, comme il en parle au verset 11 et 12. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il aurait développé une théologie très riche, qu'on connaît dans les lettres, qu'on retrouve dans toutes les lettres de Paul. Et c'est que 3 ans après qu'il est allé monter à Jérusalem pour s'entretenir, dit-il, avec Pierre et avec Jacques avant de partir. Et il a encore après entendu 14 ans avant de rencontrer d'autres apôtres, qu'il appelle d'ailleurs les colonnes de l'Église, pour que ces apôtres-là reconnaissent justement sa vocation particulière d'apôtre. Pour annoncer l'évangile aux non-juifs. Et donc Paul enfonce le clou pour affirmer qu'il n'a pas eu besoin des apôtres de Jérusalem pour l'instruire sur le plan théologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour dire donc que son message n'est pas, le message de Paul n'est pas une copie imparfaite ou un plagiat du message des apôtres de Jérusalem, comme le prétendaient les faux enseignants. Donc là, il prend vraiment le temps de dire, écoutez, moi ce que je dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai reçu du Seigneur, et voilà, c'est ce que je vous annonce. Je suis un apôtre authentique. Et sa vocation, c'est une vocation indépendante de toute intervention humaine. Et ça garantit l'autorité de son apostolat. Et ça garantit aussi l'irréfutabilité, je ne sais pas si on peut dire ça, l'irréfutabilité de son apostolat, de son enseignement. Donc les Galates n'ont aucune raison de sous-estimer Paul. Et au chapitre 1, donc on a lu au verset 24, il est écrit qu'en voyant Paul, les chrétiens de Judée louaient Dieu au sujet de Paul. Ça me travaille un peu. Parce que je me pose la question, est-ce qu'on peut dire la même chose de moi-même? Est-ce que les gens louent Dieu à mon sujet? Et on peut se poser la question pour chaque chrétien. Est-ce que les gens louent Dieu à notre sujet? Ou bien notre témoignage au quotidien est au contraire quelque chose qui provoque la déception ou la frustration? Une petite question que je pose à chacun d'entre nous et à moi en premier. Parce que si nous sommes chrétiens, normalement notre vie devrait être un livre ouvert. Nous ne devrons avoir aucun mal à dresser notre autobiographie comme le fait Paul. Un livre ouvert, lisible, avec un contenu conforme à nos convictions chrétiennes. Notre témoignage ne doit pas seulement être une question de parole, mais d'acte. Vivre ce que nous croyons. Paul le faisait. Et c'est ainsi que nous pouvons être crédibles, et c'est ainsi que nous pouvons être aussi une source d'encouragement pour celles et ceux qui nous voient vivre, dans notre famille, au niveau de notre travail. Et comme Paul, il est utile de prendre le temps de témoigner aussi de notre parcours depuis notre conversion. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de lire des autobiographies de chrétiens. Moi, ça m'encourage de voir un peu le parcours de ces chrétiens, parfois des missionnaires, qui racontent voilà, leur vie depuis le jour où ils ont connu le Seigneur. Et c'est ce que fait Paul, là. Il raconte une partie de sa vie. Il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu de la part d'Alfred Kopp, hein, peut-être que vous connaissez peut-être une bonne partie hein, de l'Église qui est là. Il avait commencé à écrire une autobiographie, et il me l'a envoyée pour demander qu'est-ce que j'en pensais. Quelque chose d'encourageant, vraiment. Et pourtant, il est passé par des moments très difficiles. Et en tout cas, ça fortifie dans la foi. Alors, je vais terminer ce message en posant un certain nombre de questions qui, espérons-le, trouveront un écho dans les cœurs de chacun. D'abord, pour nous qui sommes chrétiens, celles et ceux qui ont reçu favorablement l'Évangile, qui ont répondu positivement à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, quelles sont les bases de notre foi? Est-ce que nous sommes facilement influençables? Peut-être avec une tendance à nous laisser séduire par d'autres théories ou tendances évangéliques en vogue? Est-ce que nous nous soucions du bien fondé et de l'origine de ces doctrines qu'on entend un peu à droite à gauche qui ont l'air d'être séduisantes? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Parce qu'il est vrai que devant les messages diversifiés qu'on peut entendre de nos jours, soit par des prédications, soit sur Internet. Internet, on trouve de tout. On ne sait pas toujours sur quel pied danser. Dans ce cas, eh bien, suivons l'exemple des Juifs de Béret. Vous connaissez les Juifs de Béret? Ils examinent. Hein? Ils examinent. Voilà, dans Actes chapitre 17, versets 11 à 12. Ils étaient à l'écoute des enseignements de Paul et Silas, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Je me souviens, une fois, j'étais invité à prêcher dans une église et j'avais un jeune qui était devant, il avait une Bible. Bon, il m'arrivait de donner des références bibliques, et à chaque fois. Et à la fin du message, il m'a dit, j'ai bien aimé votre message. Je dis, ah bon, gloire à Dieu. Oui, parce que toutes les références que vous avez données sont effectivement dans la Bible. Revenons à la vérité et à la simplicité de l'Évangile. Ensuite, pour celles et ceux qui n'ont pas encore la certitude du salut, qui sont en recherche spirituelle, qui hésitent encore, qui viennent peut-être à l'église pour essayer de comprendre cet Évangile ou voilà, simplement s'informer, eh bien, une question. Êtes-vous prêt à recevoir l'Évangile, à accepter par la foi le message de l'Évangile de vérité? Parce que Dieu veut produire dans les cœurs la même transformation qu'il a opérée dans le cœur de Paul. Alors laissons le Seigneur se révéler, non pas forcément en s'attendant à des manifestations surnaturelles, à une grande lumière qui vient comme ça, ou à éprouver des sensations, des chaleurs spéciales dans le corps. Non. Tout simplement en croyant, en acceptant, en recevant par la foi et de manière objective le message du véritable Évangile. Qui est là-dedans, dans cette parole? Et je vais résumer, ça se trouve même dans Galates, dans le même épître aux Galates, chapitre 1, verset 4. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Chers amis, ce Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice, il est aujourd'hui vivant. Et il nous appelle à venir à lui, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, si nous acceptons son pardon, si nous reconnaissons notre misère devant lui, notre rébellion. Et pour que nous puissions bénéficier par la foi de la vie éternelle. Alors, aujourd'hui encore, Dieu veut transformer des vies. Et il appelle encore aujourd'hui. C'est encore le temps de répondre positivement à son appel. quelle va être pardon, votre réponse. En tout cas, que le Seigneur nous parle au travers de sa parole, que nous puissions prendre la décision qui s'impose, qui devrait s'imposer en tout cas, c'est de nous abandonner dans les bras du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous rappeler encore ce matin que, oui, l'évangile auquel nous croyons n'est pas un évangile faussé, n'est pas un évangile tronqué, n'est pas un évangile édulcoré, mais c'est la vérité, parce que ça vient de toi. Et nous croyons, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, que tu es venu pour nous réconcilier avec le Père, pour nous pardonner nos péchés. Merci pour cette grâce que tu manifestes à notre égard. Et nous voulons, Seigneur, répondre à cela. Pour nous qui sommes déjà chrétiens, renouveler notre engagement envers toi, te dire que nous t'aimons. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent être touchés dans leur cœur, qu'ils puissent comprendre que la religiosité, le savoir ne suffit pas. Mais Seigneur, qu'ils ont besoin de s'abandonner, de lâcher prise sur eux-mêmes et de venir à toi et de te laisser diriger leur vie tout entière. Seigneur, que ce message puisse avoir un écho particulier dans nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.